Il est 18h, on entame la deuxième demi-heure, la deuxième et dernière demi-heure de l'émission L'Aérospatiale, une émission qui est consacrée à 100% à l'univers des arts visuels à Québec. Vous êtes toujours en compagnie de moi-même, Julie Gagné, de Raymond Poirier à la mise en onde. On devait pour l'instant recevoir François Simard, il y a un petit inconvénient. On va procéder à une suggestion des activités de la semaine. Vous savez, ça bouge énormément dans le milieu des arts visuels, notamment ce jeudi, comme on le disait plus tôt dans l'émission, le vernissage de projet Clé en main du collectif Acapulco en collaboration avec Folliculture. C'est jeudi à 17h au coin Saint-Joseph-Est et Saint-Dominique. Le 8 octobre à 17h aussi, vernissage de la résidence de Luis Armando Garcia Garza à la Chambre Blanche, le Viento del Norte. Donc, on va voir le projet dans une étape un peu plus finale. Toujours à l'œil de poisson, les festivités continuent. La semaine passée, on recevait la fille. Cette semaine, on reçoit le gars. Avec en action vendredi soir, Francis O'Shaughnessy, Guillaume Clermont et Fred Le Brasseur. Et samedi le 9, en concert Urbain des Bois, Kathleen Kelly. Et là, on dit recevoir le gars. Kathleen Kelly est un duo composé de Christian Messier et François Simard. Et Matt Doy, Songs for an Organ. C'est vendredi et samedi à l'œil de poisson. Ça coûte 12 $ pour les non-membres, 8 $ pour les membres. C'est dès 20h30. Du côté du Musée national des beaux-arts, dès vendredi, il y a une nouvelle exposition, une assez grosse exposition. Vous avez probablement vu les publicités un peu partout ici à Québec. C'est l'exposition du Greco à Dali. Les maîtres espagnols de la collection Simone Pérez Simon. C'est présenté jusqu'au 9 janvier. Tant qu'à aller au Musée des beaux-arts, vous pouvez toujours aller voir l'exposition des maquettes des projets finalistes du concours international d'architecture. À la galerie de Louise Carrier, on présente l'exposition Germain des biens d'hier et ça continue. À Regard, il y a Cook Sasseville qui nous présente La vie en rose. En fait, plusieurs expositions qui se terminent cette semaine. Bernard Paquet à la galerie des arts visuels. Ensuite, Frédéric Lavoie sur la côte d'Abraham. Chuck Samuels et Christian Barré qui se terminent le 10 octobre. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute toujours une suggestion de Éric Dorion avec Bash Battery tiré du projet Poire Z. On vient d'entendre Bash Battery du projet Poire Z de Eric M, Voice Crack et Gunther Muller. Toujours une suggestion de notre maître musical ou maître audio, Éric Dorion. Vous êtes toujours à l'aérospatiale. Il est 18h06 précisément Et on est rejoint par José Landry Sirois qui achève en fait son exposition à la Galerie de Sarah. Bonjour.
Bonjour Julie, ça va bien?
Ça va bien et toi?
Oui, ça va. Oui, en fait, l'exposition se termine le 9 octobre. C'est en cours depuis le 9 septembre. On s'est pris un peu à la fin pour se parler, toi et moi, mais les gens ont la chance pour l'avoir une dernière fois de mercredi à dimanche cette semaine, de l'avoir jusqu'à dimanche. Ce dimanche, c'est-à-dire.
Donc, l'exposition, José, que tu présentes à Zara, c'est une exposition de dessins, c'est ton médium. Des dessins qui, par moments, ressemblent à des plans d'architecte. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi l'influence de l'architecture dans ton travail?
Bon, en fait, je te dirais plutôt que c'est un travail de ligne dans l'espace, un travail de ligne qui se répète. Puis, en fait, j'utilise des codes d'architecture parce qu'on peut, reconnaître... En fait, on se retrouve dans des images, dans des plans qu'on a déjà vus, mais c'est de là que vient l'idée que j'utilise des codes, en fait. Par contre, il y a aussi peut-être le fait aussi que les papiers sont de très grands formats, alors ça nous rappelle déjà l'image qu'on a devant des plans d'architecture d'être face presque à quelque chose de monumental, à une cartographie très, très grande, à des espaces qui se déploient carrément, à des constructions qui n'ont pas nécessairement de fondation, mais qui deviennent des espaces à imaginer, qui pourraient tout être aussi bien, ça pourrait tout être aussi bien des espaces onériques dans un espace. Alors, voilà.
Dans plusieurs de tes dessins, il y a comme des petits symboles qui se rapprochent de l'écriture cunéiforme, qui se rapprochent aussi peut-être d'équations mathématiques. On sent juste que tu répètes le motif. Pourquoi le répéter comme ça?
Je l'ai déjà expliqué aussi, puisque ce travail-là vient aussi d'une solution durant le symposium de Baie-Saint-Paul où je devais trouver une façon de répéter un motif pour retrouver le fil du dessin quand je me faisais déranger, quand j'avais des rencontres avec des visiteurs. C'est devenu une façon aussi de créer des espaces sur le papier. Il y a des liens aussi à faire avec mon travail en collection, un travail d'accumulation d'objets identiques, ce qui est propre de la collection. Si on parle d'écriture cunéiforme, mais pour les gens qui ont jamais vu mon travail, en fait, ce type d'équation-là que moi je représente, que je dessine, ça se trouve à être, on pourrait l'imaginer comme un petit carré plus un petit carré est égal à carré plus carré. Ça devient finalement une équation qui tourne à vide, une équation finalement qui est irrésolue, sans réponse.
Une équation qui est un peu comme une litanie finalement, qui a pour finalité sa propre répétition.
Tout à fait. Comme un motif aussi, une prolifération de la même chose dans l'espace.
Sur tes dessins...
Ça peut ressembler aussi, je m'excuse, ça peut ressembler aussi, il peut y avoir quelque chose, on peut faire des liens avec le braille, avec les lignes que je dessine peuvent ressembler à des tracés de sismographe. Il y a quelque chose de très intuitif dans mon travail, puis qui est aussi très inspiré par des rythmes, par la musique aussi.
En fait, dans ton travail, il se dégage en fait une grande intimité qui est conjuguée à un aspect assez graphique. Est-ce qu'on pourrait qualifier ton travail de cartographie de ton intimité dans une certaine mesure?
Oui, ça pourrait être une espèce de cartographie sensible ou aussi quelque chose de l'ordre de venir déposer des amulettes ou des mantras, quelque chose comme de l'ordre des débris d'impression, oui.
OK. Puis, est-ce que, dans une certaine mesure aussi, tu essaies de réconcilier, parce qu'il y a beaucoup de lignes quand même assez droites, il y a beaucoup de traits qui vont être soit très foncés ou qui vont être raturés ou qui vont être effacés. Est-ce que tu essaies de réconcilier la raison, la passion?
Peut-être, mais toutefois, je te dirais que c'est vraiment dans le but de tempérer une composition là, dans l'espace, sur le papier. Tu sais. C'est vraiment... moi, quand je dessine, mon idée, c'est de... Tu sais, je compare souvent mon travail à des règlements de compte où je vais poser un geste, une ligne, puis après ça, je vais essayer de balancer puis que ça fonctionne carrément. Là. Fait que c'est...
Essayer d'équilibrer toujours.
Comment?
Toujours en train d'essayer d'équilibrer la composition pour qu'il y ait une certaine justesse.
Oui, exact.
Tout à l'heure, tu parlais de collection.
Mm-hmm.
Bon, tu as une œuvre dans la vitrine qui est faite en papier de bonbon. Tu as un cœur, en fait, un très grand cœur qui est fait d'allumettes éteintes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, cette idée de collection-là?
Ben, c'est un travail. En fait, c'est plutôt c'est un travail. C'est comme un petit truc secret qui me suit depuis l'enfance où je garde des choses, des témoins de moments qui ont eu de la saveur. Si tu veux, pour moi, c'est comme une collection de finitude, toutes des petites choses qui ont eu de la saveur, puis je garde des témoins d'un moment qui s'est passé, tu sais, par peur d'oublier. Ou des fois aussi, je te dirais que c'est des choix esthétiques aussi. Les papiers de bonbons, je les garde depuis que je suis enfant parce que c'est aussi des objets des traces que je trouve belles.
Tout simplement. Aussi. Avec les couleurs et tout ça.
Ben, c'est aussi métaphorique, là, quand même, si on pense à des allumettes craquées, bon, le sens peut être vaste, là, mais
on tombera pas dans toutes les,
ouais, c'est ça,
les interprétations possibles. Pour revenir au dessin, bon, ce sont des dessins vraiment d'un très grand format. Pourquoi choisir un format qui est aussi grand?
Pourquoi choisir un format qui est aussi grand? Ben, c'est des défis, en fait. C'est des défis, puis il y a des dessins aussi qui sont plus petits. On peut en voir dans la galerie, il y a des plus petits formats. Ça va jusqu'à plus ou moins 15 pieds, mais il y a des dans les grands, mais il y a des petits dessins qui sont, je sais pas, un pied,
en tout cas, une trentaine de centimètres,
ouais, exact,
mettons.
C'est des plus petits formats. C'est une question aussi d'avoir à... Sur les petits formats, il y a comme une finesse que je dois contrôler, un souci d'attention. C'est des défis aussi de contrôle de la ligne. Puis,
j'imagine avec le grand format, il doit avoir quand même une certaine liberté dans le mouvement, dans l'exécution aussi. Tu disais tantôt, plus petit, ça doit être plus net, plus fini.
Ouais, puis aussi, ben, je te dirais que c'est les choix que je m'impose de faire sur des petits formats. Souvent, je vais choisir d'en dire autant en posant des gestes plus petits. En tout cas, il y a tout ce rapport-là à l'espace, mais ça reste qu'il y a toujours un travail de composition puis de gestion de l'espace qui est important, là.
Qui est primordial,
ouais,
en fait. Dernière question, en fait, peut-être sur l'intégration des couleurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de couleurs. Est-ce que tu es en train de l'évacuer?
Ben, je crois que ça va revenir, mais là, je me suis donné un défi de mettre de la couleur, mais d'être face au dessin, puis de se demander si on imagine que la lumière, par exemple, ambiante ou extérieure, donne à voir une couleur, tu sais.
Ouais.
J'ai comme envie d'apporter comme une espèce des petits jaunes qui pourraient faire penser à un lever de soleil ou, tu sais, ou un, juste des petits bleus, mais où tu te demandes si finalement c'est la mine du crayon plomb qui tend à donner un gris bleu ou un gris vert. En tout cas, jouer comme ça.
La couleur comme évocation,
ouais,
finalement.
Presque finalement, j'oserais dire un simulacre.
Un simulacre, c'est bon. Mm. José Landry Serroy, je te remercie.
Plaisir.
Si vous êtes intéressé à aller voir l'exposition « Ça vaut le détour », c'est présenté à la Galerie de Sarah jusqu'au 9 octobre. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute Queenly Quiet à CKRL 89.1. Alors finalement, on n'a pas entendu Queenly Quiet, on a entendu une autre pièce à la place. C'est pas très grave, on aura l'occasion de se reprendre plus tard dans l'émission. Mais tandis qu'elle est présente avec nous, on va profiter de sa présence. Je me répète un petit peu. On reçoit François Simard qui vient nous parler de son exposition « Une pièce » qui est présentée à la galerie le 36 jusqu'au 24 octobre. François Simard, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien. Écoute, une pièce, ça le dit, tu nous exposes une pièce. Normalement, le 36, c'est un 2,5. Mais là, pour ton exposition, tu as camouflé les foyers, tu as ouvert les volets des fenêtres, tu as caché un peu les particularités de la galerie, le 36. Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette modification-là de l'architecture?
En fait, c'est pas vraiment deux pièces. C'est plus un grand espace qui est divisé en deux par une arche. Puis ça fait assez longtemps que ça me travaille, cette idée-là de faire un grand tableau en continu, parce que c'est un tableau que je présente qui mesure 30 pieds de long par 7 pieds de haut. Puis je trouvais que ça se portait bien à ce type d'espace-là qui donne finalement une expérience qui a pas beaucoup de recul, puis que je trouvais assez intéressante au niveau d'une expérience très physique de lecture d'un tableau, là. Puis la modification architecturale de ça, c'est justement, je voulais enlever toutes les données un peu qui se rattachent au lieu habitable du 36, parce que c'est des anciens logements qui sont reconvertis en espace de galerie, qui est maintenant en galerie depuis une dizaine d'années environ. Puis c'est ça, en cachant tout ce qui est les foyers, le garde-robe et tout ça, par la construction d'un grand mur, je créais comme vraiment le passage d'un lieu à l'autre en une grande pièce en continu.
Puis quelle relation est-ce que tu souhaites que le spectateur entretienne avec cette pièce-là, avec ton œuvre, justement en le forçant comme à rester très près puis à ne pas avoir de recul?
Ben c'est une relation très envahissante. On fait partie un peu du tableau. C'est le même type d'expérience que les peintres Colorfield Painters, le Clifford Steele et compagnie faisaient dans les années 70.
De s'absorber
en proposant des tableaux avec presque pas de recul, des tableaux très grands, puis c'était un petit peu ça que je voulais faire un petit clin d'œil à ça, là, en proposant une expérience assez immersive, là, finalement.
Dans la première version de la toile, parce que ça, c'est un tableau que tu as réutilisé, qui a été exposé à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval en 2007 pour l'exposition que tu faisais avec Mathieu Valade. Ça s'appelait Bing Boing Boing.
Ouais.
J'ai vraiment aimé le nom, d'ailleurs, il faut que je le dise, c'est ce qui m'avait emmené voir l'exposition.
Uh-huh.
Dans cette première version-là, il y avait une recherche sur le paysage. Est-ce que c'est encore le cas?
Oui, parce qu'il faut dire que en fait, j'ai pas fait un autre tableau, j'ai juste poursuivi le tableau déjà existant. Parce que toutes les interventions que j'avais faites sur toile pour cette peinture-là en 2007 sont laissées visibles, en fait, sur la nouvelle toile. Puis c'est un petit peu la poursuite dans l'accumulation plus excessive, si on veut, d'une intervention de ce qui avait été amorcé dans ce tableau-là.
Est-ce que, moi, quand j'avais regardé la première exposition, j'avais un peu l'impression que tu cherchais à déconstruire le paysage, notamment à travers une ligne de fuite qui est plus diagonale qu'horizontale, à travers aussi comme deux lignes, justement, pas une ligne de fuite, mais une ligne d'horizon, peut-être plus diagonale, des lignes de fuite qui convergent pas vers un même point. Est-ce que tu cherches à déconstruire le paysage?
Je m'en sers plus comme élément de départ, si on veut. C'est ce qui va motiver les interventions que je vais faire sur le tableau en affirmant la peinture comme étant un paysage dès le départ. Puis c'est souvent par l'application, comme tu dis, d'une grande ligne d'horizon qui est ici un peu en diagonale. Puis c'est ça, c'est plus l'élément déclencheur, si on veut, d'une piste de lecture de l'œuvre.
Oui, parce que au bout du compte, l'illusion de la profondeur s'arrête presque à ça, parce que les formes, elles sont plus juxtaposées ou superposées les unes aux autres.
C'est ça. Il y a comme un jeu aussi entre la peinture et le dessin qui est assez important à ce niveau-là, là, par juxtaposition, superposition, comme donner en simultané là, deux types de, d'interventions différentes, puis dans un espace qui est celui du paysage, puis qui est en même temps celui de la peinture. C'est comme un va-et-vient constant là, qui se fait là.
Un dialogue aussi, dans le fond, entre les différents types de formes, parce qu'il y a des formes qui sont beaucoup plus géométriques. Je pense à ces espèces de rectangles noirs, bruns, très, très profonds, et à d'autres formes qui sont plus brossées et tout en courbe et en arabesque.
Oui, ben ça, c'est assez important pour moi là, d'avoir un vocabulaire assez varié là, dans ces formes-là, parce que je trouve que ça leur donne plus de singularité aussi dans une composition, là, où est-ce que ils se retrouvent en simultané là, de côtoyer du bad painting avec du hard edge. Pour moi, c'est super intéressant de faire ça. Là.
Puis est-ce que le but, c'est de les mettre en opposition ou au contraire, c'est d'essayer de réconcilier le tout?
Il n'y a ni opposition ni réconciliation parce qu'il n'y a pas de dilemme ou de problème entre les formes. Là. C'est comme... c'est vraiment les faire dialoguer, si on veut... En harmonie.
En harmonie, OK. Ouais. Puis, il y a une autre chose que je trouve particulièrement intéressante, en fait, c'est le choix des couleurs qui sont quand même assez vives sans être éclatantes. Il y a beaucoup de roses, du gris, du jaune, du vert. Qu'est-ce qui motive le choix de ces couleurs-là qui sont assez, au bout du compte, pimpantes?
Ben, c'est un choix qui est très spontané pour moi. La couleur en peinture depuis que je peins, ça fait une dizaine d'années là, que j'ai une production. Pour moi, c'est vraiment le côté le plus intuitif à la production d'un tableau. Là, c'est le choix de la couleur.
C'est l'émotion?
L'émotion, je dirais pas ça, là. C'est vraiment plus comme un côté de séduction par rapport à la couleur, là, pour moi, c'est comme des agencements que je ferais pas nécessairement, qui me surprennent, puis que j'aime expérimenter, là.
Puis peut-être dernière question pour conclure. J'ai parlé des formes qui sont plus géométriques, des formes qui sont plus, dans une certaine mesure, sensuelles ou en arabesque, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a des évocations d'éléments, de paysages ou d'éléments qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne comme des voitures, des nuages, mais qui sont extrêmement stylisés, qui sont extrêmement simplifiés. Pourquoi?
Ben ça, c'est pas... Je mentionnais tout à l'heure le rapport entre la peinture et le dessin. Ça, c'est vraiment pour moi des éléments du dessin de venir comme... c'est souvent ces interventions-là, c'est celles qui sont tracées en ligne contour, les nuages entre autres, les éléments du paysage. Pour moi, c'est encore là, ça vient renforcer le lien que j'ai dès le départ avec le tableau, de l'affirmer comme paysage. Parce que c'est souvent des éléments d'architecture aussi, des bâtiments, puis des éléments très simplifiés du paysage, des montagnes, des nuages, des lacs et compagnie.
Parfait. Ben François Simard, je te remercie.
Ben, c'est moi qui te remercie.
L'exposition, elle est présentée à la Galerie Le 36, au 36 rue Couillard, jusqu'au 24 octobre. Notez les heures d'ouverture, elles sont assez restreintes. C'est le vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h.
C'est
pour aller voir l'exposition Une pièce de François Simard. Bonne fin de journée.
Ben, merci.
À l'aérospatiale, c'est la fin de l'émission. On vous avait promis une dernière pièce audio sélectionnée par Éric Dorion. On va l'entendre, c'est Queenly Quiet. D'ici là, on vous souhaite une très belle soirée à l'antenne de CKRL. Il y a l'émission Les Phares à Brume qui entame les mardis nostalgie et poésie. Mon nom est Julie Gagné, ça a été un plaisir d'être avec vous et je remercie Raymond Poirier à la mise en onde. On se laisse en heure audio, Queenly Quiet de Poirzed sur CKRL.